Cantabile con Brio, une émission de musique classique proposée sur RCF Sud Belgique et préparée par Eric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Depuis plusieurs semaines, nous entendons la voix d'Eric Rouillet dans Cantabile con Brio sur notre antenne RCF Sud Belgique. Et voilà que j'ai le personnage en face de moi. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. J'ai répondu à son invitation. D'abord, j'ai reçu des CD à la radio. Je les ai écoutés. C'était très, très beau. Et en plus, il y avait un petit mot. Et Eric Rouillet vient du sud de la France, pas très loin. Du Rhône, c'est le pays du Rhône. Et la particularité, c'est que il fait pas que des disques, il fait pas que de la musique, c'est qu'il a aussi une cave à vin. Et déjà ça aussi, ça me parlait évidemment beaucoup. Eric, bonjour. Comment avez-vous eu l'idée d'envoyer vos CD chez nous à Namur ?
Alors à Namur, parce que j'ai effectivement une cave à vin. Je suis dans une activité de distribution des grands domaines. J'ai un label de musique classique, je suis producteur, et j'ai parmi mes artistes, parce que j'ai les plus grands artistes, peut-être pas les plus médiatiques, les plus médiatisés et les plus dans le système, mais j'ai parmi mes artistes votre grand pianiste belge qui s'appelle Jean-Claude Van den Heijden. Et comme je collabore beaucoup avec RCF Isère et Dijon et Lyon, je me suis dit que c'était intéressant quand même que je rentre en contact avec RCF Namur pour proposer une partie de mes émissions et surtout, je crois, mettre en avant ce patrimoine culturel que vous avez avec Jean-Claude Van den Heijden, qui est pour moi pas assez renommé et pas assez mis en avant par rapport à son talent, parce que c'est un homme discret, c'est un homme effacé, c'est pas un homme qui est carriériste, c'est un homme qui s'efface et il a besoin qu'on le mette en avant, il a vraiment besoin qu'on le valorise, parce qu'il a vraiment des choses extraordinaires à faire comme pianiste, comme interprète de musique de chambre. Et donc c'était tout naturellement que, étant collaborateur avec RCF, et voyant qu'il y avait une antenne à Namur, ça me paraissait mais évident de rentrer en contact. Par contre, ce qui ne me semblait pas évident, c'était votre retour et votre bienveillance à revenir vers moi en me disant « mais on est intéressé par votre projet ».
On a eu beaucoup de chance parce que vous auriez pu envoyer vos CD à Liège ou à Bruxelles. Et voilà que vous avez choisi Namur, qui est la capitale de la Wallonie. N'ayons pas peur, cocorico.
Oui, alors, je dois vous dire que quand j'étais adolescent, j'étais en colonie et j'ai rencontré une fille qui était de Namur, qui était très belle. Et alors, je crois que c'est inconsciemment, c'est la raison qui m'a fait choisir Namur. Voilà, c'est souvenir d'adolescent.
Je confirme, toutes les Namuroises qui sont autour sont toutes très belles, c'est évident. Comment vous êtes rentré dans ce monde musical ? Vous étiez adolescent, comment ça s'est passé ? Racontez-nous un peu, qui êtes-vous ?
Alors, le monde musical est né avec ma rencontre avec Philippe Soupeau, qui était fondateur du surréalisme, qui a écrit Les Champs magnétiques avec André Breton. Après, Louis Aragon est venu s'intégrer dans cette équipe de surréalistes et qui m'expliquait qu'il fallait avoir un temps d'avance. Et même en étant jeune et en vivant dans des quartiers défavorisés, il fallait s'intéresser à la culture, donc au vin, à la musique.
Ah, on marque un temps d'arrêt parce que nous sommes ici devant un plat qui nous arrive. Je ne l'ai pas dit en commençant, mais nous sommes à Paris dans un excellent restaurant où nous avons fait cette première rencontre. Et j'attends que la demoiselle qui va nous présenter le plat va nous faire l'explication. Ça, c'est toujours un grand moment, comment on explique ce qu'on va manger. Je ne vais pas demander au monsieur de le faire, on va demander à la dame.
Elle a une voix beaucoup plus douce.
Elle a l'air, oui.
Alors, ici vous retrouvez donc le croustillant de pommes de terre accompagné de têtes de cochon et algues nori. En accompagnement, vous retrouvez une quenelle de crème d'isigny parfumée au jus de cochon et également une moutarde japonaise avec coque, huître et bulot et bigorneau. Merci beaucoup.
Eh bien, on a bien fait de venir.
Et donc, cette rencontre avec Philippe Soupeau grâce à Bertrand Tavernier m'a amené à me projeter, puisqu'il m'a fait découvrir Robert Desnos, il m'a fait découvrir des tas d'amis, et il a exigé presque de moi que je me passionne très vite pour la musique, pour les vins, et donc à 16-17 ans, je suis parti en Hongrie, pour découvrir le Tokaï. J'ai découvert Bartok, Kodály. À l'époque, j'étais étudiant infirmier, donc j'ai fait mon mémoire sur la musicothérapie sur 5e quatuor de Béla Bartok. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites et je me suis rendu compte qu'il y avait des artistes qui étaient réduits au silence, qui étaient mis au placard, qui étaient des artistes majeurs, simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne tonalité au niveau des médias, ils n'étaient pas assez carriéristes. Et j'ai décidé de leur donner la possibilité d'enregistrer, de laisser une trace à la hauteur de leur talent. Et donc, j'ai monté un label il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà. Alors je l'ai fait sans moyens, sans connaissances, je ne sais pas lire la musique, j'ai l'habitude de dire je suis un ignorant éclairé, je suis passionné et je fais les choses avec conviction. Et donc j'ai créé une famille, parce que quand on enregistre on est ensemble tout le temps, moi je ne quitte jamais les musiciens. Et en fait on a une passion pour l'humain, on a une passion pour une certaine façon de vivre, sur une certaine élévation, sur des rapports humains très forts. Et la musique est un lien, mais c'est pas l'essentiel. On part du principe que ce sont pour moi les plus grands, mais si humainement on n'a pas cette nécessité de s'aimer et de s'apprécier, ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est une aventure très exigeante sur le plan humain, sur le plan émotionnel. Alors évidemment la musique est fondamentale, mais chaque disque que je fais, j'estime qu'il doit prendre sa place dans l'histoire de la discographie. Et chaque disque, je l'estime avec ma prétention, j'estime qu'il va déhiérarchiser la discographie et qu'il va se placer en haut. Je ne peux pas partir dans un projet si je n'ai pas cet élan mental. Voilà. Mais j'ai les musiciens qui correspondent. Mais c'est personnel. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai tous les grands prix. J'ai le grand prix de l'Académie Charles Cros, j'ai les chocs de l'année, j'ai des diapasons d'or. Sans copinage, sans servitude, sans me brader, sans faire du micmac avec les journalistes, et en étant autonome, je suis parvenu à avoir la reconnaissance de tout le monde. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour moi.
Eric, on peut dire une conversation entre la poire et le fromage, mais on a encore eu ni l'un ni l'autre, et je pense pas qu'on l'aura, ni la poire ni le fromage. Enfin, ça, on verra tout à l'heure. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur RCF Sud Belgique, en compagnie d'Eric Rouillet, qui nous propose ses émissions Cantabile con Brio. Et Eric a parlé de Jean-Claude Van Denen, notre grand pianiste, finaliste du prix Reine-Élisabeth. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce vin, de ce breuvage que tu nous as fait découvrir ici. C'est quelque chose, une pépite, encore un peu comme Jean-Claude, qui mérite d'être mieux connu. Et voilà.
Alors, c'est une cuvée qui s'appelle la cuvée immémoriale, cuvée initiatique. En fait, c'est un résidu de vin qui date des années 1250, donc du XIIIe siècle, où à l'époque, dans le Roussillon, il y avait le cépage qui s'appelait la Malvoisie. On appelait ça la Malvoisie du Roussillon. C'est comme une sorte de mer de vinaigre, mais en fait, c'est une mer de vin qui s'est un peu cristallisée, qui s'est crispée et qui a gardé la quintessence de sa mémoire dans des grands fûts. À l'époque, ça s'appelait évidemment pas des fûts. Et tous les 30 ans, tous les 50 ans, pour pas que cette mer se sèche, on l'a inondée de vins contemporains, des vins d'époque. Alors, 13e, 14e siècle, c'était la Malvoisie. Après, il y a eu le Macabeu et le Grenache blanc, le Grenache gris, qui sont arrivés au 17e, 18e siècle. Ce qui fait que tous les demi-siècles, on déverse une partie de la production dans cet amphithéâtre, dans ce parchemin, et on arrive par une sorte d'osmolarité à extraire la mémoire, à imbiber ce résidu qui est au-dessus, on le prend à la pipette et on fait des vins qui ont l'essence, le substrat de ce qu'il y a dessous, comme si les racines du vin, des racines mémorielles, venaient nourrir le feuillage. On récupère les feuilles. Et les feuilles, c'est le vin. Et on boit un vin qui raconte l'histoire de 7 siècles, 7, 8 siècles. Et ça, on le sent, parce que tu es en train d'en boire aussi. C'est un vin qui est indéfinissable et qui est un vin qui possède un potentiel émotionnel absolument incroyable. C'est comme si on lisait une sorte de Bible, une sorte de Nouveau Testament bis. Et c'est un vin qui apporte quelque chose de tout à fait indéfinissable. Voilà, c'est le mystère à l'état pur.
Là, on a de nouveau notre cher collègue qui va venir nous titiller les papilles.
Avec grand plaisir. Donc ici, vous retrouvez le plat signature du chef autour de l'artichaut. Donc vous allez retrouver les cœurs d'artichaut qui sont rôtis au vinaigre sakura, donc vinaigre de fleurs de cerisier, accompagné d'une gelée réalisée avec ce même vinaigre, purée d'artichaut. Et juste ici, la sauce barigoule, donc qui est réalisée avec le bouillon des feuilles, un bouquet garni et du vin blanc. Et donc, en fait, l'idée du plat, c'est vraiment de pouvoir déguster tous les éléments ensemble pour apprécier toutes les saveurs. Donc, un peu de cœur, de purée, de gelée et de sauce barigoule.
Merci beaucoup. En fait, tu savais pas du tout ce qu'on allait manger. Tu as amené le vin.
Alors, par tradition, j'ignore toujours les plats parce qu'on est dans un fantasme d'accord mets et vins qui est une petite gourmandise de nos jours, mais qui est un petit peu spéculative. Mais un grand vin s'accorde très bien avec la grande cuisine. C'est comme un piano. Ça s'accorde très bien avec un grand pianiste. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'accord doit être improvisé. Les plus grands accords sont les accords qui se font sur le moment. Quand on anticipe les grandes choses, ça devient des petites choses. On ne vit pas des grands moments par procuration et en les préparant à l'avance. C'est le présent, c'est l'immédiateté qui décide, dans tout.
C'est l'improvisation qui donne l'émotion, finalement.
Oui, alors, une pseudo-improvisation, parce que je sais où je vais. Mais malgré tout, l'impréparation. Voilà. Il faut laisser une liberté totale à l'instant, en sachant qu'on a tout mis en œuvre pour que cet instant soit le meilleur possible. Mais quand on arrive sur l'instant, on ne sait pas où on va. Mais on a sillonné avant tout ce qu'il fallait pour aboutir à un grand moment. Mais le moment, si on veut qu'il soit géant, il faut accepter qu'il ne nous appartienne pas.
Éric, tu es en train de nous décrire le coup de foudre ?
Oui. Alors le coup de foudre, parce que pour que les choses soient belles, il faut accepter qu'elles soient éphémères. On est condamné à la perpétuité de l'éphémère. Et on ne peut accepter de vivre des choses immenses que si on accepte le fait qu'elles ne peuvent pas durer. Et c'est ça qui est beau. Comme les fleurs. Alors que l'amour, on cherche à le soumettre à une sorte de temporalité éternelle. Et je crois qu'on fait une erreur fondamentale. Et c'est le romantisme qui a tué tout ça. Il nous a mis dans des déviations de pensée et a pollué le plaisir de la vie.
Bon appétit.
Merci.
Éric Rouillet, est-ce que tu es un épicurien ?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas pour une raison simple, c'est que je n'ai jamais lu Épicure. Et il y a tellement de personnes qui se définissent comme épicuriennes que je me méfie. J'aime l'idée que je puisse m'offrir ce qu'il y a peut-être de plus beau dans la vie, de me donner les moyens de trouver un sens. Parce qu'en fait, le problème, c'est de trouver un sens. Je me souviens, j'ai connu quand j'étais adolescent un résistant qui me disait que ses raisons de vivre étaient plus importantes que sa propre vie. Et que c'est à partir de ça qu'il a trouvé un sens à sa vie. Et alors, je me suis toujours senti très handicapé et en état d'infériorité par rapport à lui. Parce que, à partir de quel moment on est crédible dans ses plaisirs, dans ses idées, si elles ne remettent pas en question les fondements même de notre pensée. Et alors, oui, épicurien, oui, dans une définition un peu facile et artificielle, oui, j'aime me faire plaisir. Mais ce plaisir, s'il est paresseux, il ne m'apporte rien, il ne m'apporte pas de souvenirs. Moi, ce que je cherche, c'est l'émotion. Par exemple, là, on est en train de partager un déjeuner. C'est pas l'épicurisme, c'est autre chose. C'est un repas qui va transformer notre parcours, puisqu'on est en train de rentrer dans une sorte d'intimité. C'est la première fois qu'on se rencontre, on sait qu'on va se revoir, et on sait que cette rencontre va dévier de pas beaucoup, mais va dévier une partie de notre parcours. Alors, ce n'est pas de l'épicurisme, c'est autre chose. Je n'ai pas le mot, je n'ai pas la définition. Mais l'épicurisme ne suffit pas, parce que c'est passif, c'est flamboyant, mais ça ne donne pas de sens à la vie. Et le problème, c'est de trouver un sens, de la profondeur, la gravité. La gravité doit être aérienne. Les gens disent des fois, oui, c'est léger, mais la légèreté n'a pas de sens. L'aérien a du sens. Il y a la spiritualité. Quand on boit un vin, quand on passe un moment avec quelqu'un, il faut qu'il laisse une trace. Une trace qu'on ne peut pas définir, mais quelque chose de profond. Alors, oui, l'épicurisme, oui, ça passe par le plaisir. Mais le plaisir en lui-même n'est pas un aboutissement.
Alors, je rebondis sur le logo, finalement, qui est celui d'RCF, c'est « La joie se partage ». Et c'est le partage que nous vivons aujourd'hui. Tu m'as fait connaître un excellent vin dont tu as donné l'explication tout à l'heure. Nous partageons un excellent repas. On ne donnera pas l'adresse, parce que sinon, on fait tort aux autres. Hein. Et puis, on garde ça pour nous aussi. Mais aussi, j'ai entendu tout à l'heure ton amour pour les artistes, les grands, mais c'est pas forcément ceux qui font le plus de ventes, mais ce sont des grands quand même. Et le fait de vouloir les mettre en lumière, c'est un partage.
C'est un partage, et c'est aussi une obligation morale. C'est un engagement. C'est impliquer des personnes qui, quelque part, dans leur grandeur, m'élèvent. C'est-à-dire que j'ai Robert Levine, j'ai Dominique Merlet qui est maintenant à la retraite, j'ai Boris Berman, j'ai Jean-Claude Van Heyden. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la conscience de leur grandeur. Mais moi, quand je m'approche d'eux, je suis sous la contrainte de m'élever. Et ils m'élèvent. Et plus je leur rends hommage, plus je rends service à une sorte de patrimoine culturel, et plus en même temps, ils m'apportent quelque chose. C'est une sorte de réciprocité qui s'installe. Et je leur suis redevable de ça. Même si eux pensent qu'ils me sont redevables. Et c'est ça qui est très étrange. C'est que dans l'amour, parce que oui, on parle d'amour, chacun est redevable de l'autre. Mais on n'est pas dans une relation d'amour où on investit. On est dans le don. On est vraiment dans la gratuité des choses. On est dans la bonté. Et dans une sorte de ricochet perpétuel où les choses s'élèvent. Et nous avec.
On a notre fil rouge qui est revenu. On va bientôt avoir la carotte. On est un peu comme les ânes. Hein. On va avoir un délicieux morceau de poisson.
C'est un beau turbo. Un turbo rôti qui va être accompagné donc d'une carotte des sables qui va être elle-même garnie d'une purée de carottes et gingembre. Donc la sauce qui l'accompagne, jus de carotte, gingembre et ciboulette.
Une pensée construite comme est la mienne et une voix féminine derrière, je fais pas le poids.
Merci. Thank you.
Alors messieurs, ici vous retrouvez notre pigeon donc, qui a été mariné au cacao et miso en accompagnement à un croustillant de sarrasin qui sera farci des abats de pigeon. Sur le dessus, l'aiguillette qui elle est laquée à la sauce teriyaki et en accompagnement, jus de pigeon, moutarde et vinaigre de cidre.
Merci beaucoup.
On va avoir le prénom de la demoiselle.
Oui, mais ça, c'est pour la chute, ça.
Ah, c'est pour la chute.
Ah oui, c'est pour la chute. C'est pour la chute. Ah, la chute, la fin de l'émission. Dites-le toujours.
Céleste.
Ah, on aurait pu le deviner quand même. Hein. On est nuls, là, sur ce coup-là. Elle nous a emmenés au paradis depuis une heure. En conclusion, Eric, d'abord, ce n'est pas une conclusion, vu que c'est le début d'une grande aventure. Tu vas venir nous voir à Namur.
Oui, avec grand plaisir, pour découvrir votre pays. Parce que nous, les Français, on a la curiosité de nous-mêmes, mais on a beaucoup de mal à s'imaginer que les autres peuvent nous apprendre et nous enrichir. Et c'est vrai que la Belgique fait partie de ces pays qui sont vraiment à côté de chez nous, dont nous n'avons pas vraiment la curiosité, et c'est regrettable. C'est très regrettable. Et donc, je viendrai avec grand plaisir. J'essaierai, dans la mesure du possible, de venir avec Jean-Claude Van den Heijden, qui, je le rappelle, il fait partie de votre patrimoine, qui est un personnage qui correspond aux fondations, aux structures d'un pays et à son histoire. Et je me ferai vraiment une joie de me rendre dans vos studios.
Eh bien, on vous accueille avec grand plaisir tous les deux, Jean-Claude et toi. On va prendre rendez-vous. Donc, chers auditeurs, restez à l'écoute. Il y a des grands moments en perspective. Merci Eric et bon appétit.
Merci. Bonne digestion. Thank you.